Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
Et à 7h, le journal Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité.
L'anesthésiste de Besançon n'ira pas en prison. Il reste en liberté sous contrôle judiciaire après sa mise en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement de patients. Un ancien Premier ministre dans l'arène pour soutenir la liste socialiste aux européennes. Bernard Cazeneuve était en meeting à Lyon hier soir. Et puis il est déjà considéré comme l'un des favoris pour la Palme d'Or à Cannes. Pedro Almodovar présente aujourd'hui son film Douleur et Gloire avec Antonio Banderas.
Et à 8h15, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
L'anesthésiste de Besançon n'ira donc pas en prison pour l'instant. On l'a appris dans la nuit. Il reste en liberté sous contrôle judiciaire alors que le procureur avait demandé son placement en détention provisoire après sa mise en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement de patients, dont 7 décès. Satisfaction d'un de ses avocats, maître Randall Schwerdorfer.
On n'est qu'au début d'une toute nouvelle procédure et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est le temps que va prendre ce dossier. Et il nous semblait fondamental que le docteur Péché puisse rester libre pour sa famille, c'est tout ce qui lui reste. On lui a pris son travail, sa vie professionnelle, il ne lui reste plus que cette liberté et c'était essentiel de la conserver.
Au total, le docteur Péché est soupçonné de 24 empoisonnements, dont 9 ont entraîné la mort. Arthur Elmbaché, vous êtes en direct de Besançon pour Europe 1, c'est grâce à des recoupements que les enquêteurs ont fini par le confondre.
Oui, jamais pris sur le fait, particulièrement habile. Voilà, Hélène, le docteur Péché, décrit par le procureur de Besançon. Si on analyse chaque cas individuellement, même dans le détail, jamais, admettent les enquêteurs, on arrive à établir la moindre culpabilité. Voilà un suspect qui agit, d'après l'accusation, quand personne ne se trouve dans la salle d'anesthésie, qui, pour ne pas éveiller les soupçons, prend la peine de varier, dit le procureur, la nature des poisons. En fait, c'est la mise en perspective des 24 cas qui permet de croiser, nous dit-on, des éléments de preuve épars, d'établir un faisceau d'indices de plus en plus dense. Des indices que la défense, évidemment, et on vient de l'entendre, estime insuffisants. Il est le seul anesthésiste présent le jour de tous les incidents suspects, des incidents inexistants avant et après les 6 ans passés par Frédéric Péché dans les cliniques. Il est enfin toujours à proximité immédiate de la salle d'opération pour pouvoir intervenir et sauver, si on peut dire, et surtout, malheureusement pas dans tous les cas, les patients en danger de mort.
Arthur Elmbaché en direct de Besançon pour Europe 1. Le docteur Péché a désormais l'interdiction de paraître dans sa ville. Il va partir vivre dans l'ouest de la France. Europe 1, il est 7h02.
Marche arrière toute. Édouard Philippe ouvre la porte au retour à 90 km/h sur les routes secondaires.
Oui, on s'en souvient, la limitation à 80 avait été l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. Le Premier ministre accepte donc que les présidents de conseils départementaux relèvent la vitesse sur certains tronçons, quitte à en assumer les conséquences en matière de sécurité routière. Voilà une mesure de bon sens pour le maire de Vulbens, en Haute-Savoie, à la frontière avec la Suisse.
J'étais en colère par rapport à cette décision de mettre le 80. Ces décisions qui sont imposées d'en haut, où tout le monde doit se mettre au garde à vous, c'est insupportable. C'est un manque de respect, c'est un manque de confiance, c'est un manque de reconnaissance des élus que nous sommes, des élus responsables. Les gens n'y comprennent pas ce genre de décision. Là, c'est bien, on revient du bon sens, je trouve. On revient dans de la logique de territoire, des gens qui vivent sur leur territoire. J'imagine qu'en concertation, on va pouvoir nous indiquer au département les endroits où la vitesse mérite d'être limitée versus celle où on peut remettre à 90 km/h parce que tous les éléments sont favorables, une ligne droite bien dégagée, bien visible, voilà.
Frédéric Budan, maire de Vulbens en Haute-Savoie, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. Il y a 6 mois tout juste, le mouvement des Gilets jaunes était lancé. Demain, de nouvelles manifestations sont programmées pour le 27e samedi consécutif. Une fois encore à Paris, les rassemblements seront interdits dans les secteurs des Champs-Élysées, de l'Assemblée nationale et de Notre-Dame. Un appel national est lancé pour manifester à Reims.
Les figures de la gauche appelées à la rescousse pour la campagne des européennes.
Oui, à 10 jours du scrutin, la liste socialiste plafonne autour de 5% des intentions de vote. Après Christiane Taubira à Rouen. Hier soir, c'est Bernard Cazeneuve qui est venu soutenir la tête de liste Raphaël Glucksmann à Lyon. L'ex-premier ministre est donc sorti de sa réserve pour tenter de relancer la campagne du PS. Jean-Luc Boujon était dans la salle pour Europe 1.
Pour Bernard Cazeneuve, c'était presque hier une entrée de rockstar.
Je vous demande un triomphe pour monsieur Bernard Cazeneuve.
À l'évidence, l'ancien ministre de l'Intérieur est heureux d'être là. Il redit sa fidélité aux valeurs de gauche et n'hésite pas à cogner sur le pouvoir actuel et sur Emmanuel Macron.
Est-ce progressiste que de prendre près de 6 milliards d'euros à des retraités modestes par une réforme de la CSG et d'en donner autant aux plus grandes fortunes de notre pays? Est-ce juste?
Puis il rend un hommage appuyé à Raphaël Glucksmann, à son courage de mener la bataille alors que les sondages sont en berne. Et il promet même des surprises pour le 26 mai.
Je suis venu vous promettre des victoires. Je suis venu vous promettre d'autres printemps. Ne vous laissez pas impressionner par l'arrogance et le mépris. Soyez fiers de vous-même.
Un discours qui visiblement a fait beaucoup de bien aux militants.
C'est très bien qu'ils soient venus ici, de façon à refonder la gauche qui m'a ébranlé émotivement.
Ça relance aussi la campagne, qui dégage vraiment ce sentiment de sérénité qui nous laisse espérer que demain ça va bien se passer.
Des militants regonflés donc, qui pour certains aimeraient bien qu'après Taubira et Cazeneuve, ce soit maintenant François Hollande qui s'invite durant la dernière semaine de la campagne. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà, et d'après nos informations, Ségolène Royal ne voterait pas pour cette liste, mais pour la liste Renaissance, en échange quand même d'un petit quelque chose. Ça sera l'objet de l'édito de Jean-Michel Apathy tout à l'heure à 7h40.
Quant à François de Rugy, il a eu bien du mal à prendre la parole hier soir à Gaillac, dans le Tarn. Le ministre de la Transition écologique était venu rencontrer des militants de La République En Marche, mais pendant une heure, des centaines de gilets jaunes ont entonné des chants hostiles au gouvernement et au président. Prison ferme requise pour le couple Balkany. Le parquet national financier qui a dénoncé l'acharnement à frauder a requis 4 ans contre le maire de Levallois avec incarcération immédiate et 2 ans ferme contre son épouse Isabelle pour fraude fiscale. Le PNF demande également 10 ans d'inéligibilité pour le couple, le maximum. Le volet blanchiment et corruption sera abordé à partir de lundi.
La suite du journal avec Hélène Zelani. On le disait hier, le taux de chômage est au plus bas depuis 10 ans et il y a une catégorie de la population qui profite particulièrement de cette embellie.
Oui, les jeunes femmes entre 15 et 24 ans. Pour elles, le chômage a baissé de près de 4% sur un an. Il y a plusieurs raisons pour expliquer le phénomène. C'est notamment l'apprentissage qui les attire de plus en plus. Reportage de Maude Descamps.
Dans son centre de formation des apprentis de Poitiers, Karine Desroses n'a jamais compté autant de filles. Plus de 30% des effectifs cette année, du jamais vu. Boulangerie, pâtisserie, carrosserie. Il y a aussi la filière mécanique qui compte 10 filles cette année pour 250 garçons. Des profils qui plaisent beaucoup aux employeurs.
La plupart me disent, quand ils ont recruté une femme, ils apprécient parce qu'ils retrouvent des qualités qu'ils ne retrouvent pas forcément chez les garçons. Il y a plus de minutie, elles sont plus posées.
Et puis il y a aussi l'industrie où les femmes sont encore minoritaires, 34%. Les entreprises ont donc besoin de recruter de jeunes candidates pour féminiser leurs équipes. Comme l'exige la loi, rappelle Marie-Sophie Pavlak de la Fondation Elle Bouge.
Ça s'est très largement accéléré ces dernières années avec la mise en place de lois égalité professionnelle. Évidemment, tout ça peut tendre à faire en sorte qu'on préférera une candidature féminine, mais uniquement à compétences égales.
Au-delà de sa féminisation, c'est tout le secteur de l'apprentissage qui est en plein boom, au point que dans de nombreux métiers, on manque de candidats et de candidates.
Maude Descamps.
Direction Cannes maintenant, où l'événement de la journée, c'est bien sûr la présentation du nouveau film de Pedro Almodovar.
Douleur et gloire, dont on murmure qu'il a de bonnes chances de Palme d'Or, avec Antonio Banderas dans le rôle d'un cinéaste en crise qui ressemble fort au réalisateur espagnol Mathieu Charrier.
Pedro Almodovar ne veut pas parler de film autobiographique, il préfère le terme d'autofiction. Mais c'est vrai que c'est sa vie que l'on voit à l'écran, son appartement, ses vêtements, même si l'histoire est un petit peu romancée, celle d'un réalisateur en mal d'inspiration qui souffre de problèmes de dos et prend de la drogue pour se soulager. Bref, il déprime.
Si tu n'écris plus et si tu arrêtes les tournages, tu vas faire quoi ?
Vivre, je suppose.
Jusqu'au jour où il va décider de résoudre ses problèmes. Ça commence par se réconcilier avec son vieil acteur, avec sa mère aussi, que l'on voit sous forme de flashback. Elle est jouée par Penélope Cruz. C'est Antonio Banderas qui donne vie à Pedro Almodovar.
Les gens me disent, Pedro Almodovar a mis des choses vraiment personnelles dans ce film. Mais Pedro Almodovar a toujours fait ça. Mais dans ce film, il a tout simplement créé un personnage basé sur lui-même. D'un certain côté, ça lui permet de se réconcilier avec sa famille, notamment avec sa mère, avec les acteurs, avec le cinéma, et surtout avec lui-même.
Et Douleur et gloire est en tout cas un film virtuose sur la vie, sur l'homosexualité aussi, avec l'un des plus beaux baisers homo de l'histoire du cinéma. Bref, un film mémoire pour Almodovar qui pourrait décrocher sa première Palme d'Or avec ce 6e long métrage en compétition. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Mathieu Charrier que vous retrouvez dans le journal de Cannes à 8h35. Et le film Douleur et gloire sort aujourd'hui dans toute la France. L'image de la soirée d'hier à Cannes, ce sont les larmes d'émotion d'Elton John qui assistait à la projection de Rocketman, le film qui raconte sa vie avec les très hauts et les très bas. Un peu plus tard dans la nuit, on dit qu'il a fait le show sur la plage du Carlton en interprétant seul au piano I'm Still Standing.
I'm Still Standing.
Yeah.
On n'a pas la chanson. Et Romain Causer qui dit ah, fallait me prévenir plus tôt, il a raison. Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani.